avec Daniel Habert, bien sûr, on fait un petit tour d'horizon géopolitique de la semaine écoulée, notamment les conséquences géopolitiques, disais-je, du Forum économique de Davos, mais aussi de la création là, de ce fameux Conseil de la paix pour Gaza que Donald Trump a mis en place. Voici donc Daniel Habert, il est au micro, comme d'habitude, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors la semaine passée, on a eu beaucoup de géopolitique et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y avait ce fameux Forum économique mondial de Davos où l'on a vu beaucoup de chefs d'État se succéder aux prises de parole. On a marqué évidemment Emmanuel Macron. Ici en Belgique, on a évidemment également parlé de l'attitude du Premier ministre belge Bart De Wever. Davos a été le centre d'intérêt du monde. Quelle analyse géopolitique peut-on faire de ce moment, Daniel?
Alors, ce moment, je le rappelle que le World Economic Forum, ça a une cinquantaine d'années, c'est un Allemand dont la mère était suisse, Klaus Schwab, qui l'a inventé. Il a réuni quelques entreprises en leur disant, je vais, réunissez-vous, puis je fais venir des experts qui vont enrichir vos perspectives. Et puis, il y a eu une dialectique positive. Plus d'experts intéressants venaient, plus d'entreprises venaient, plus d'entreprises venaient, plus les experts du monde entier avaient envie d'être là. Et finalement, les politiques se sont saisis de ce rassemblement d'hommes d'affaires. Et c'est devenu, en fait, un rassemblement de chefs d'État. Parlant aux hommes d'affaires et on l'a vu et aussi bien dans le discours de Trump que celui de Macron que celui par exemple du Premier ministre canadien, ils passent tout leur temps, 80% des discours c'était vendre leur pays. Et voilà, on va bien, on a une demande, donc venez investir chez nous, c'est du marketing. Et puis la deuxième chose qu'ils font, ils annoncent un certain nombre de choses. Alors, cette année, la vedette, ça a été incontestablement Trump, qui, en direct, a pratiquement fait le tour du monde de la géopolitique. Il a abandonné en direct l'idée de prendre le Groenland par la force. Il en est sorti par le haut. Je pense qu'il avait jamais l'intention de le faire. Il en est sorti par le haut en manipulant Mark Rutte, qui est son obligé, puisque c'est lui qui l'a fait. Et donc, finalement, c'est l'OTAN qui va s'occuper du Groenland. Et quand même, ça, c'est une bonne nouvelle. L'OTAN est sorti renforcé. C'est-à-dire que les Américains qui ont tout intérêt à maintenir l'OTAN parce qu'ils en sont les patrons l'ont renforcé. Du coup, Zelensky qui disait on parle plus de moi parce qu'on parle que du Groenland, tout de suite il est venu. Il a eu son contact avec Trump. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis il y a des négociations en cours dont on peut pas imaginez qu'elles vont arriver à la paix, mais bon, on a avancé. En même temps, Trump a complètement changé de sujet en faisant un grand effet médiatique sur le Conseil de la paix, une idée qui lui est venue tout récemment, transformer ce Conseil de la paix qui normalement siège au sud d'Israël pour régler le problème de Gaza, d'en faire une sorte de mini ONU, et vous avez eu un nombre de chefs d'État qui se sont prêtés à cette entreprise médiatique et qui ont donc signé ce Conseil de la paix. Et puis on n'a pas reparlé de l'Iran, lui aussi qui avait été un peu obscurci par l'affaire groenlandaise. On parlait plus de l'Iran. Ça y est, l'Iran en reparle, l'armada arrive et on peut imaginer, on en reparlera, qu'il va se passer des choses. Il y a eu deux autres interventions intéressantes, celle de Macron qui montre qu'il y a une partie des Européens qui veut pas se laisser vassaliser, qui rentre dans la résistance. Alors, est-ce que ça durera? On ne sait pas. Et puis, l'intervention qui a été la plus saluée, c'est celle du Premier ministre canadien qui dit, bon, on a compris, vous avez les grandes puissances qui veulent jouer tout seul. Nous, les puissances moyennes, je crois qu'on en avait déjà parlé ici à conversation, les puissances moyennes, le Canada, chaque pays d'Europe, la Grande-Bretagne, le Japon, tous ces puissances moyennes, unissons-nous pour ne pas nous laisser vassaliser par les trois grands. Voilà un petit peu les grands traits de ce qui s'est passé à Davos.
Vous avez parlé, Daniel, de ce fameux Conseil de la paix et de l'ONU. On entend beaucoup de commentaires qui interprètent cette situation comme l'effondrement du monde ancien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est une confirmation, parce que le monde ancien, disons l'ordre mondial, bon, d'abord n'a jamais été un ordre, parce qu'il y a eu beaucoup de désordre, n'a jamais été mondial, parce qu'il y a eu la guerre froide, mais on avait cette illusion qu'il existait quand même un endroit, l'ONU, où tous les peuples du monde pouvaient se rassembler, etc. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que le grand absent, c'était Guterres, l'ONU. Il devait venir. Et quand il a compris que Trump allait phagocyter Davos, il a attrapé un gros rhume. Donc il n'est pas venu. Et donc c'est vrai que, d'une certaine manière, en annonçant ce désordre organisé qu'on appelle le nouvel ordre mondial selon Trump, selon Trump, selon Poutine, selon Xi Jinping, c'est un peu le dernier clou dans le cercueil de l'ONU. Quoique l'ONU, je pense, va continuer à exister, mais on verra comment.
À quoi pourrait ressembler ce nouvel ordre mondial, Daniel?
Écoutez, il y a deux ou trois grands traits qui vont s'imposer. D'abord, il sera un ordre de l'ordre de la communication. Davos, c'est un grand moment de communication, et on voit que finalement la politique de Trump, qui est la politique presque mondiale, elle se fait à la télévision, à la porte de son avion, dans ses interviews. C'est une permanence de la communication. Deuxièmement, c'est clair qu'il n'y aura plus un ordre unique, mais plusieurs sous-ensembles qui vont être dirigés par les trois grandes puissances que sont la Russie, la Chine et les États-Unis, et chacun s'employant donc à réunir autour de lui de plus en plus d'États qui seront des vassaux. Et donc le grand trait principal de cette nouvelle ordre, c'est qu'il met fin à l'hypocrisie, parce que quand même cette idée que le droit international régnait depuis 1945 jusqu'à ce que Trump arrive, c'est une illusion. Il n'a jamais régné, ça a toujours été la force. Et avec Trump, finalement, cette force s'impose. Mais quand on réfléchit bien, cette force dite brutale, elle n'est pas d'ordre militaire. Trump, on le sait, c'est pas un va-t-en-guerre. Des instruments de la bagarre mondiale, du désordre mondial ou des rivalités mondiales vont être essentiellement économiques, c'est les droits de douane, c'est les sanctions, vont être technologiques, c'est à celui qui sera le plus fort, notamment dans l'intelligence artificielle, financière aussi, est-ce que le dollar continuera à régner en maître? Et donc le jeu des leaders va se constituer autour de ces rapports de force. Et donc on n'y voit pas encore clair sur deux choses, c'est les rapports de chacun de ces leaders avec ses vassaux, parce que les vassaux résistent. On l'a vu avec le Premier ministre canadien, avec Macron. Ils veulent pas se laisser vassaliser. Ils veulent garder ce qu'ils appellent leur autonomie stratégique. Donc, c'est pas gagné pour ces grandes puissances d'avoir vraiment ces nouveaux empires dont on parle. Et puis, la vraie question, ce qui pose, et ça relance l'idée que je laissais entendre sur l'utilisation de l'ONU dans l'avenir, faut bien qu'il y ait un endroit pour que les sous-ensembles se coordonnent un peu, se rencontrent. Et donc, l'ONU va être un lieu où peut-être se rencontreront ces trois sous-ensembles. Et donc, toute la politique internationale va tourner autour de ce que font un certain nombre de pays comme l'Inde. Vous voyez, l'Inde encore un grand absent. Est-ce qu'il sera la plus petite des grandes puissances ou la plus grande des puissances moyennes? Vous voyez, voilà. Donc on rentre dans un cycle, j'appellerais un désordre organisé qui sera l'objet de nos conversations à venir, hein, mais qui sera plus réaliste que celui dont on rêvait avant, parce que je crois que le principal mérite de ce que fait Trump, c'est mettre fin à ces hypocrisies qui font croire que avant Trump, la force ne régnait pas en maître, elle a toujours régné en maître et elle va continuer et ça sera plus transparent.
Oui, pour conclure, Daniel, en une petite minute, si vous le voulez bien, quelles sont les perspectives auxquelles on peut s'attendre?
Écoutez, quand on regarde un peu les petits ONU qui sont en train de se créer, donc d'un côté le Conseil de la paix que Trump a lancé, mais aussi ce que la Chine a lancé, notamment deux grandes organisations, l'une qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai et l'autre qui s'appelle les BRICS. On va voir donc tous les pays du monde réfléchir à où je vais. où je vais rejoindre le Conseil de la paix, où je vais rejoindre les organisations proposées par la Chine. Par exemple, le président du Brésil, Lula, a dit, moi, ce Conseil de la paix, c'est horrible, je vais avec les BRICS, c'est-à-dire qu'il va avec la Chine, le Brésil va avec la Chine, parce que le mot BRICS, B, c'est Brésil, vous voyez. Mais, et puis, tous les autres pays vont devoir choisir, mais on s'aperçoit quand on regarde la composition des gens, des pays qui sont dans le Conseil de la paix, et qui sont dans les mini-ONU de la Chine, c'est souvent les mêmes pays. Un pays qui est à la fois dans le Conseil de la paix, dans l'Arabie Saoudite, mais il est aussi dans les BRICS. Donc c'est un monde tout à fait effervescent auquel on assiste, et tout va se jouer probablement sur l'économie, sur les pays qui vont être, et c'est pour ça que je reviens à l'introduction. Ce qui était important pour Trump, c'était de montrer que l'Amérique va bien, venez investir chez nous. Et puis il est déjà, lui, en campagne pour ces élections de mi-mandat qui vont se jouer autour de l'économie.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles conversations.
À la semaine prochaine, au revoir.